J'aime remonter mes chaussettes.
Et pisser sous la douche.
Par contre, j'aime pas m'arracher les poils du nez.
J'aime bien être témoin d'une scène tellement énorme qu'on n'osera même pas la mettre dans un film.
J'aime pas faire l'amour avec une femme et penser à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aime bien l'idée qu'après la mort, ce sera pas pire qu'avant la naissance.
Vous êtes sur Arosta Cafetière. Cette émission vous est présentée par Clara Petazzoni, en compagnie de Thibaut Bayard et de Maya Denei. Au programme aujourd'hui, dans notre microscope, vous écouterez José Baudet, femme de cinéma, nous parler de son parcours. Et puis, place aux actualités du mois, après notre pause musicale, vous serez parachuté dans notre impromptu. Il s'agit d'une correspondance amoureuse de fiction entre Éric Noël et Christophe Pellé. Nous finirons l'émission avec le deuxième épisode de notre série radiophonique Madame Ninon. Vous êtes sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier dans l'émission Arosta Cafetière. Vous voilà dans notre microscope. Ce mois-ci, le micro est donné à José Baudet. José Baudet est une femme. Elle vit dans une grande maison de bois au sud-est du Québec, à quelques pas seulement de la frontière américaine. Aujourd'hui, elle écrit des livres. Dernièrement, son roman Jean-Marie Baudet, L'homme orchestre, est paru aux éditions FID. Maintenant, elle nous livre quelques brides de son parcours dans le milieu du cinéma.
J'aimais les films, puis j'aimais la littérature aussi, mais aussi, je me suis dit comment. J'étais très curieuse de savoir comment on fabrique un film. Je pense que j'étais institutrice pour gagner ma vie. J'avais pas une formation vraiment de professeur. Alors, j'avais pas d'emploi permanent non plus. Et puis, l'occasion s'est présentée avec mon mari à l'époque, qui venait faire un stage de perfectionnement en France, de venir à Paris. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours été intéressée par le cinéma, je vais faire une formation. Mais j'avais déjà 28 ans, qui était l'âge limite pour entrer à l'IDEC. Donc j'ai fait une école privée qui s'appelait le Conservatoire indépendant du cinéma français. Et s'il existe encore, s'appelle peut-être le Conservatoire libre du cinéma français. Et après, j'ai fait un stage à l'ORTF pendant plusieurs mois, en fait, comme une année, septembre à juin, quelque chose comme ça, comme une année scolaire. Et puis, je suis rentrée au Québec et j'ai commencé à faire du montage. Après mon film, j'ai participé à l'Office national du film. C'était en 85, c'était l'année internationale de la jeunesse. Et il faut savoir que l'Office national du film, qui est un organisme de production d'État au Canada, a un secteur français puis un secteur anglais au Québec. Et dans le secteur anglais, il y avait un studio de femmes qui existait depuis longtemps. Et au moment de l'année internationale de la jeunesse, en 1985, ils ont décidé de former 25 jeunes femmes dans les métiers techniques, puis en réalisation et en production aussi en cinéma, puis ils m'ont demandé de m'occuper du secteur francophone. J'ai fait ça pendant un an. À la suite de ça, le directeur du programme français, toujours à l'Office national du film, m'a demandé de faire une espèce de recherche, d'enquête, pour savoir s'il y avait un besoin de créer une place pour les femmes à l'intérieur du secteur francophone de l'ONF, pour les aider à réaliser leurs films, parce qu'elles étaient vraiment, elles le sont toujours, mais c'était encore pire à l'époque, je pense, il y en avait très peu nombreuses à faire le travail de réalisatrice. J'ai fait cette recherche-là en 86, et après j'ai ouvert un studio qui s'appelait Regard de femmes, pour aider les femmes à projeter leur vision du monde. Et j'avais des équipes de tournage mixte, mais le plus possible avec des techniciens. Mais je pense que ça firme de plus en plus. Il y en a des jeunes au Québec. En France, il y en a beaucoup des films de femmes maintenant. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Il y avait le Festival de Créteil, où je suis déjà allée à quelques reprises, mais on était entre nous. Quand tu regardes la télévision, puis tu regardes par exemple des gens de partis politiques, il n'y a pas que des vestons d'hommes, il y a quelques femmes. On a une mairesse à Montréal depuis peu, c'est la première fois depuis toujours. Et donc il y a une évolution, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. si tu fais pas moi je pourrais dire, tu prends pas des couteaux par exemple, je sais que c'est très désagréable, l'idée est pas amusante, mais il faut presque le faire pour arriver à faire plus de place aux femmes. Moi, quand j'avais un studio de femmes à l'Office national du film, ça faisait pas rigoler des gens qui trouvaient pas ça drôle du tout. Mais ça, on est passé, je pense, de 14 % à 33 % à cette époque-là, au niveau des films réalisés. C'était un de mes arguments quand j'ai voulu créer le studio des femmes. Je me disais, quand je lis, même si je ne sais pas qui est l'auteur d'un livre, je le devine quand c'est une femme. Et j'ai eu comme ça des écrivaines que j'ai, canadiennes, québécoises, canadiennes plutôt, Gabrielle Leroy, Anne Hébert qui a passé presque toute sa vie à Paris, a écrit sur le Québec, mais elle vivait dans le 5e arrondissement. Ça, c'était des images importantes. En cinéma, j'ai beaucoup aimé Agnès Varda. Je me rappelle que quand j'avais vu Cléo de 5 à 7, ça, c'est arrivé dans ma vie où, à un moment donné où je me suis dit, ah, mais je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres femmes qui vivent des choses. Tu sais, elle avait des gros plans, il me semble, dans ce film-là, avec des ferrères passés ou je sais pas, des choses de la vie quotidienne, mais où elle était seule. Puis Agnès Varda, je l'aime encore. C'est que quand j'écris, c'est-à-dire quand on me lit, on me dit souvent, ça paraît que tu as travaillé en cinéma. Probablement parce que, je sais pas, c'est un peu visuel ou c'est une façon d'écrire, je sais pas. Mais quand j'étais à la SODEC, j'étais pas encore en écriture. Et j'ai beaucoup aimé cette période-là de ma vie parce que tout ce que j'avais appris, parce qu'en fait, j'ai fait du montage, mais j'ai fait de l'assistanat à la réalisation, j'ai fait de la production, j'ai fait de la recherche, j'ai fait un tas de trucs. Je connaissais presque tout le monde dans le milieu. Et ça a été, cette dernière, et c'était comme une belle conclusion à ma vie professionnelle en cinéma. La SODEC, c'était une belle fin de carrière cinématographique. Ouais.
Merci à José Baudet, vous êtes toujours dans Arosta Cafetière. Je profite de ce petit instant pour vous parler d'un livre pas tellement d'actualité, il est paru en 1987, donc il a maintenant 20 ans, mais je le trouve pas mal d'actualité dans les sujets qu'il traite. C'est une histoire banale que tout le monde connaît, enfin, que tout le monde connaît au moins des gens, que tout le monde connaît qui l'a vécu. Un couple emménage dans un nouvel appartement, leur enfant est adolescent, le père est au chômage et leur amour se délite. Donc comme je disais, peut-être banal dans l'intrigue, mais si bien mené par Anne-Philippe qui d'ailleurs... parce qu'il y en a plusieurs, je crois, et la femme fut la femme de Gérard Philippe, l'acteur. Et son roman est tellement beau et tellement juste dans le regard que je l'ai ouvert un matin, je l'ai lu toute la journée et je l'ai refermé le soir. Je le conseille vivement, ça s'appelle « Le regard de Vincent », écrit par Anne-Philippe. Vous êtes toujours sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier dans l'émission « Arosta Cafetière ». Maya, je crois que tu peux nous parler de ce qu'on va écouter juste après.
Oui, alors on va écouter Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an et que j'aime beaucoup, comme beaucoup de personnes, je pense.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came goodbye with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene, and you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth, one more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. His woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. You plan to go clear. Sincerely, L. Cohen.
Maintenant dans notre impromptu. Éric Noël et Christophe Pellé, ces deux auteurs dramatiques contemporains, ils ont imaginé ensemble une correspondance amoureuse de fiction, en gros, une histoire d'amour à distance entre deux hommes qui s'appellent Victor et Gaspard. Et Maya et moi, on a été assez touchés par leur écriture et on va vous en partager un extrait tout de suite. 5 janvier 2012. Gaspard, es-tu encore à Montréal ? Ou déjà en partance pour Berlin. L'appartement me paraît bien et peu cher si la description est exacte, quartier central, bien desservi par le métro. Essaye juste de savoir à quel étage il se trouve, c'est important à Berlin. Le ciel est déjà si bas. Inutile d'en rajouter en étant au ras du sol. Émouvant d'imaginer quelle va être ta vie dans cet appartement durant les quelques mois de ton séjour à Berlin. Tu te rapproches de moi. Toi en Allemagne et moi en France. Mais l'Europe est si petite. C'est une ville en soi, avec ses différents quartiers comme autant de villes, Paris, Berlin, Rome, Lisbonne. Face à ce rétrécissement, J'ai du mal à imaginer notre avenir, je ne sais à quelle distance le maintenir. Ton arrivée en Europe, où les frontières sont ténues, rend cette distance obsolète. L'océan nous sépare jusqu'à présent, et cet effacement à venir, des flots effacent aussi les mots. Ils nous ramènent au corps, à la présence des corps. Les mots eux-mêmes sont autres. Dans ton dernier mail, ces conseils que tu me demandes pour ta location à Berlin, des mots encore plus triviaux, liés à un quotidien. Le souvenir que j'ai de toi va s'en trouver changé. Il y a 2 ans, lorsque je t'ai vu pour la dernière fois, lors de ton passage à Paris, je me souviens d'un jeune homme aux yeux clairs et intenses, au visage d'artagnesque, si tu me permets cette expression. Beau visage franc et ouvert, dont le front m'avait attiré. J'avais eu envie d'y déposer tout de suite des baisers. Ta venue prochaine déforme cette impression idéale. Ce masque, ce beau masque un peu figé et inaccessible, ne faisant que passer dans un flux d'images presque abstrait, ce visage qui jusqu'à présent prédominait, voilà qu'il a un corps à présent. Et ce corps, occulté il y a 2 ans, dans l'éblouissement de la première rencontre, des premiers mots, et surtout, oui, surtout des premiers regards, le regard, ce qui perdure, ce qui reste quand il ne reste plus rien, ce corps donc se rappelle à moi dans une proximité inquiète. Alors les mots apparaissent pour que ce qu'ils sont, ou ont été, un rempart. Ce mail n'est donc pas une déclaration d'amour, ni même une déclaration de guerre, puisque souvent le vocabulaire amoureux s'accorde à celui de la guerre. Une déclaration de désir alors ? J'aimerais garder ce pouvoir de l'œil, éviter le toucher, les odeurs, le son de la voix, ce pouvoir de l'œil qui, jusqu'à présent, a tout présidé. L'œil est le prince de ce monde, et les mots sont ses valets. Déclaration de désir donc, inscrite dans le corps même de cette correspondance, qui se rapproche. J'imagine déjà le présent laconique et brutal des textos, mais si réconfortant parfois dans leur surgissement même. Je te baise là où tu le souhaites, sur le front, l'œil gauche, plus ouvert il me semble que le droit, ou encore dans une forêt, sur une plage, puissance de la langue française qui a fait que le mot baiser traverse les époques, sans perdre ni sa douceur infinie, ni sa triviale et salutaire violence. Victor.
29 septembre 2016. Victor, je voudrais te dire, ne pas attendre, ne plus attendre. Des mots, une réponse, un être aimant. Est-ce possible ? Je te réponds dans l'urgence que m'inspire ce dernier message de toi. Un frisson m'a traversé en te lisant. Ce même frisson qui me traverse quand je repense à ces mois à Berlin, ou alors quand les souvenirs d'hommes que j'ai désirés me reviennent en tête, souvent au réveil, comme s'ils avaient toute la nuit, toutes les nuits habité mes rêves. Le tien, ton souvenir, ce frisson, si lointain et si douloureux, c'est à vrai dire comme une petite aiguille qu'on me planterait dans le corps, dans la paume de la main, la forçant à se refermer. Douloureux parce que la honte de moi est grande, et que je n'ai fait depuis 4 ans, depuis notre cassure, que tenter d'apaiser, d'anesthésier en moi ce sentiment. Je n'arrive pas à me pardonner de m'être laissé aimer de toi dans cet état, état dans lequel je suis toujours aujourd'hui, semblable à celui dans lequel tu dis te trouver. Flottement, c'est bien le mot. J'existe, j'avance, j'aime, oui, comme un oiseau plane au-dessus du fleuve, à l'embouchure du fjord, là où tous les courants s'entremêlent. J'aime sans effort, sans décision. Le vent est mon amoureux. Cette lutte à finir entre l'amour et la liberté, elle m'est insupportable. Et j'ai si souvent choisi la liberté. Je parle d'oiseaux, de fleuves, c'est que j'ai temporairement quitté la ville, toutes les villes. C'est qu'il me fallait bien à un moment arrêter de consommer. Mais je n'ai pas envie, ici, de te raconter l'histoire de mes dépendances. Les histoires de drogue sont toutes pareilles. La mienne, comme toutes les autres, je la connais déjà. Ce matin froid dans lequel je t'écris est sans appel, le ciel bleu sans partage. Mon état semble se stabiliser dans cette langueur, cette déprime comme un bourdon qui couvre tout, efface tes sensations. Plus de joie, plus de peine. Rien qui soit immense et pourtant me voilà dépassé. Dépassé par ma vie. Je fais quoi ? Qu'ai-je gâché ? Je devrais sans doute me mettre aux antidépresseurs, me mettre au diapason. Ce village global, ce monde artificiel que tu décris qui nous tue, il n'est sans doute traversable que par notre abandon à lui. La nature ne suffit pas à tout le monde. La montagne n'est pas une thérapie. Non plus le vent, non plus la vie qui grouille dans les bois. La ville, au fond, propose des solutions mieux adaptées et durables. Je ne peux pas non plus passer ma vie sur la terrasse à flanc de montagne d'une maison qui ne m'appartient pas. J'écris, oui, quelle vilaine question. Très peu, puisque j'écris du théâtre. Tu sais mieux que moi que c'est détestable, écrire une pièce de théâtre. Tout cet empêtrement sur la page, toutes ces interruptions, cette discontinuité. Les dialogues, le nom des personnages en majuscules, criard, les retours à la ligne, les didascalies. Je n'en mets plus de didascalies, c'est terminé, à quoi bon? Je me console en me répétant jusqu'à le croire fermement qu'être en paix avec l'écriture n'est pas souhaitable. Il faut être en conflit avec la forme que nous avons choisie. Ce que je voudrais, c'est écrire d'un trait, d'un souffle, sans m'arrêter. Des romans, tiens, ou en un seul chapitre. Ça me paraît beaucoup plus facile et pourtant je n'y arrive pas. Je me contente d'écrire un théâtre dans lequel je raconte aux spectateurs les romans que je voudrais écrire. J'ai si souvent, Victor, cru choisir la liberté, alors que c'est l'amour, toujours, qui a décidé pour moi. T'abandonner, oui, il y a 4 ans, séduit et effrayé, trop doux ton amour, trop complet. Et t'écrire aujourd'hui, geste entièrement libre, pétri d'amour, sache-le. D'amour impossible, de par la distance, de par le temps, de par mes dépendances. L'homme étiolé que je suis devenu trouve dans tes mots un réconfort. L'affinité de nos tristesses me bouleverse. Comment dire ce qui me brûle les doigts? Ce qui résiste à s'écrire depuis le début de ce message. Je passerai par Paris en novembre. Voilà, c'est dit. J'allais ne pas t'annoncer ma venue, traverser l'océan en silence, laisser Paris et sa grande gueule m'avaler, puis me recracher. Mais tes mots, le frisson de toi qui m'a traversé, m'ont fait changer d'avis. Je ne sais que faire, cependant, de cette déclaration. Je passerai par Paris en novembre. Le choix du verbe, peut-être, trahit mes intentions. Je ne ferai que passer. Paris. Novembre. Caspar.
Merci Maya, vous êtes toujours sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier, dans Arros ta cafetière. Et tout de suite, Saudade de Cesaria Evora.
soda, 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 des mia terra seminclava. Soda, 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 des mia terra seminclava. Soda.
On vous laisse maintenant avec le second épisode de notre série radiophonique Madame Ninon, conçue par Maya, Thibault et moi-même.
Surtout Maya.
Madame Ninon, épisode 2. Sylvie était rentrée chez elle après avoir rencontré Madame Ninon, avec au-dessus de sa tête un petit nuage gris rempli de désespoir. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis, mais ce nuage continuait de la suivre partout. Dans sa cuisine en préparant son déjeuner, dans la rue en allant chercher du sopalin à l'épicerie, au-dessus de son lit quand elle essayait de dormir. Et ce nuage s'épaississait à vue d'œil à mesure que les jours passaient. Sylvie était frappée d'une profonde mélancolie sans trop en comprendre la cause. Elle pensait beaucoup à cette vieille dame silencieuse dans sa grande maison. La jeune femme ne parvenait pas à saisir pourquoi Madame Ninon, qui semblait pourtant parfaitement lucide, n'avait pas signé une seule fois. Est-ce qu'elle n'en valait tellement pas la peine au point de ne mériter aucune réponse? Mais ce qui la tenait réveillée la nuit était bien autre chose. C'est l'infirmier qui occupait son esprit. L'image du jeune homme lui collait aux tempes comme un chewing-gum sous la chaussure. Elle avait beau essayer de s'en débarrasser, son visage était ancré en elle. Mais petit à petit, en réalisant qu'elle ne pouvait y échapper même en essayant de toutes ses forces, l'acceptation est venue transformer la honte en curiosité et le désespoir en plaisir. Alors, perdue dans la fièvre langoureuse d'une insomnie, elle s'est mise à fantasmer une prochaine rencontre. C'est le lendemain matin et Sylvie se réveille dans son appartement, puis se lève étourdie par son manque de sommeil et l'esprit embourbé dans ses pensées. Elle se sert une tasse de thé, allume son ordinateur portable et effectue une recherche. Après quoi, elle prend son téléphone, tape un numéro qu'elle recopie depuis son ordinateur et appuie sur le petit téléphone vert.
Secrétariat du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix, bonjour. Que puis-je faire pour vous?
Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez la liste des infirmiers en déplacement à Mauguerriec.
Oui, ce serait pourquoi?
Aide à la personne âgée.
Très bien, alors ne quittez pas, je vous mets en attente. Alors, madame, j'aurais Jean Lequellec, Valérie Lecourt et Léonard Perrier.
Ben, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Google Images. Jean Lequellec. Ah non, c'est pas lui. Léonard Perrier. Ok. Alors, Léonard Perrier. Facebook. Léonard Perrier. Ok. Ajouter. Non. Envoyer un message. Salut. Non. Bonjour. Bonjour, c'est Sylvie de l'association À l'écoute, à tout âge. On s'est croisé chez Madame Ninon. Comment est-ce que tu te rends chez elle pour bosser? Moi, j'ai galéré à venir. Smiley.
Sylvie soupire, hésite un moment, ferme les yeux, puis clique sur envoyer. Elle voit son message partir et s'afficher tel qu'il le verra, et attend. 30 secondes s'écoulent et Facebook indique que son interlocuteur a vu le message. Sylvie retient sa respiration et fixe son écran. 2 minutes s'écoulent et il n'a toujours pas répondu. Puis Sylvie voit apparaître les petits pointillés indiquant qu'il est en train d'écrire sa réponse. Et très vite, son message s'affiche. « Bonjour. » Puis en dessous, un autre message. « Je vais chez elle en voiture. » Point. Je vais chez elle en voiture. Point. Sylvie ne sait pas quoi penser de cette réponse. Il avait pourtant répondu de manière claire à son message en disant bonjour et en répondant à sa question, mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien répondre à ça? En même temps, à quoi s'attendait-elle? Mais si elle ne répond pas, alors tout ça n'aura servi à rien. Alors Sylvie va pour taper un autre message.
Ok. Non, cool. Cool. Haha. Si jamais tu veux qu'on fasse du covoit, je paye le café à Morlaix. Vous voyez.
Et instantanément, le petit symbole qui indique qu'il a lu s'affiche. Sylvie attend à nouveau. Mais rien. Plusieurs minutes s'écoulent et toujours pas de réponse. Sylvie va pour se resservir du thé à la cuisine et revient vérifier, mais il n'a toujours pas répondu. Elle se rend compte d'un coup qu'elle a très froid et va pour remettre un peu de chauffage, puis s'empare de son plaid et s'en fait une cape. Elle retourne voir, mais toujours rien. Alors elle décide de mettre de la musique dans l'espoir de s'y oublier un peu.
Trouble. Oh, trouble set me free. I have seen your face, and it's too much for me. Trouble, oh, trouble, can't you see? You're eating my heart away, and there's nothing much left of me. Made your world mine, so won't you be fair? So won't you be fair? I don't want no more of you, so won't you be kind to me? Just let me go where I have to go there. Trouble. Trouble, move away. I have seen your face, and it's too much for me today. Trouble, oh, trouble, can't you see? You have made me a wreck, now won't you leave me in my misery? See death's disguise hanging on me, hanging on me. I'm beat, I'm torn, shattered and tossed and worn. Too shocking to see, too shocking to see. Death. Now won't you leave me in my misery? Trouble, oh, trouble, please be kind. I don't want no fight, and I haven't got a lot of time.
Le lendemain matin, dans la chambre de Madame Ninon. « La vieille dame est assise dans son fauteuil à côté de la fenêtre et écoute de la musique sur son poste radio. Son visage est calme. Le soleil révèle un rayon de poussière scintillante qui traverse la pièce. Madame Ninon semble apprécier partager sa tranquillité avec la lumière du matin et le duo de violoncelles qui lui sont pourtant si familiers. Une sonnerie retentit à côté d'elle, mais comme à son habitude lorsque le téléphone sonne, elle appuie avec un geste précis sur le bouton qui fait passer l'appel sur son répondeur.
Oui, bonjour madame, c'est Véronique de l'association à l'écoute à tout âge. Bon alors, c'était pour vous informer qu'on a reçu un appel de Sylvie, vous savez, la jeune femme qu'on vous a envoyée la semaine dernière. Voilà, bon bah finalement, elle ne souhaite plus faire partie de l'association, donc c'était pour vous prévenir qu'on vous enverra, avec votre accord bien sûr, qu'on vous enverra quelqu'un dès que possible. Hein. Voilà, bon bah au revoir madame.
Quelques heures sont passées et c'est l'après-midi. Madame Ninon est debout dans sa cuisine. Il est l'heure du passage de l'infirmier. Le café est prêt lorsqu'il entre et il tient dans ses mains un croissant aux amandes, la pâtisserie préférée de Madame Ninon qui lui apporte à chaque visite où peu s'en faut. Il accepte le café avec plaisir et lui demande comment elle va. Les mains de la vieille dame se mettent en mouvement. Alors c'est sa propre langue silencieuse qui prend forme, gracieuse comme une danseuse classique qui repriserait un bouton. Et c'est comme si le temps s'arrêtait quand Madame Ninon signe. Ce faisant, ses mains expliquent qu'elle va bien, mais qu'il faudrait qu'il cesse de lui emmener des pâtisseries parce que sinon elle allait finir grasse et repoussante. Ce qui fait sourire l'infirmier.
Bon, arrêtez, vous serez toujours la plus magnifique à mes yeux.
Il sirote une gorgée de son café qu'il semble trouver mérité au vu de la finesse de sa réplique.
Bon, et la hanche, ça va? Vous avez plus mal? Non, les palpitations, ça va?
Ninon hausse les épaules.
On monte, on va voir tout ça?
Ils sortent de la cuisine et il lui tend son bras pour l'aider à monter les marches.
Bon, Ninon, il faut vraiment que vous preniez mon escalier parce que là, il va vous arriver quelque chose.
Dans la chambre, il l'aide à s'asseoir sur son fauteuil. Il lui retrousse délicatement la manche de son bras gauche, lui enroule le brassard et lui prend la tension. Puis il enfile son stéthoscope et écoute attentivement les battements de son cœur. Ninon se retourne et lève les mains pour signer. Et toi, qu'est-ce que tu me racontes? Ta collègue avec qui tu as bu un verre, tu l'as revue?
Non, on se rencontre au boulot, mais il n'y a rien de sérieux. Et puis dans tous les cas, mon cœur est à vous, vous le savez.
Madame Ninon secoue légèrement la tête en levant les yeux au plafond.
Au fait, comment ça s'est passé la dernière fois avec la jeune fille?
Plutôt bien, signe-t-elle. Mais elle ne reviendra plus.
Ah bon? Vous voulez plus?
Ce n'est pas moi, c'est elle. Elle laisse retomber ses mains. Il remet son stéthoscope et écoute sa respiration. Tous les deux regardent par la fenêtre. La mer est calme et le ciel dégagé. Une légère brise fait bouger les feuilles du pommier dans le jardin. Elle m'avait dit qu'on pourrait aller se balader au bord de l'océan.
Vous êtes sur les répondeurs de Sylvie Valetti, vous pouvez laisser un message et je vous rappellerai dès que possible. Au revoir.
Bonjour Sylvie, c'est Léonard l'infirmier de Madame Ninon. Je vous appelle simplement pour savoir si, malgré ce que vous avez déclaré à l'agence, vous souhaiteriez repasser passer du temps avec Madame Ninon. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.
L'émission touche à sa fin. Si vous avez raté un morceau de cette émission ou si vous voulez simplement la réécouter, elle sera à nouveau diffusée sur Radio FM Plus 91 FM le premier jeudi du mois de février à 20h. Et pour nous retrouver pour la prochaine émission, ce sera le troisième jeudi du mois de février à 20h. Merci à Yous et Stéphane à la technique et merci à Maya et à Thibaut.
J'aime remonter mes chaussettes.
Pisser sous la douche.
Par contre, j'aime pas m'arracher les poils du nez.
J'aime bien être témoin d'une scène tellement énorme qu'on n'oserait même pas la mettre dans un film.
J'aime pas faire l'amour avec une femme et penser à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aime bien l'idée qu'après la mort, ce sera pas pire qu'avant la naissance.